Toulon, sur la trace des champions. Rugby Club Toulonnais 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable. Un podcast de la rédaction des sports de Varmatin.
Je vous invite à écouter l'ovation qui salue l'entrée dans le stade des deux capitaines.
Nous sommes le samedi 6 juin 1992, Parc des Princes à Paris. Le RCT affronte le Biarritz Olympique en finale du championnat de France de rugby. Ce sera le dernier match de Serge Blanco, une légende vivante du rugby. Et son ultime objectif est de ramener le bouclier de Brennus chez lui, dans le sud-ouest, un titre qu'il n'a jamais remporté. Face à ce géant, le club toulonnais est loin d'être favori. Le RCT sort d'une saison difficile au bord de la relégation. Mais le staff fait confiance à ses jeunes, les minots de Besagne. Certains ont à peine 18 ans et passent leur baccalauréat au mois de juin. Patrice Tesser est l'un d'eux. Il saisit cette chance avec un talent fou, une insouciance éblouissante, malgré le défi que représente un duel face à Serge Blanco. 30 ans après, nous avons retrouvé Patrice Tesser, très jeune joueur de l'époque qui n'était pas encore titulaire au début de la saison. En 10 épisodes, Varmatin vous fait revivre l'épopée du sacre toulonnais, cette semaine avec Patrice Tesser, le minot qui regarde Serge Blanco dans les yeux. Pierrick Illicruffinati l'a rencontré.
Bon Patrice, c'était pour te souhaiter un joyeux anniversaire.
Merci.
Il y a 30 ans, il s'est passé quelque chose de sympa dans ta vie de joueur, dans ta vie d'homme. Est-ce que tu pourrais me dire si tu te rappelles de cette année 1992?
Ah oui, on se rappelle bien de cette année 1992, mais c'est vrai qu'au début du mois de mars de l'année 92, on est une équipe plutôt dans le doute, puisque à quelques jours près, je pense qu'on sort d'une correction à Colomiers qui va provoquer... une réunion à la brasserie Canterbro, à l'époque à Grand Varest, tenue par Ange Sauton, le papa de Philippe, qui était de l'Imélé du début de saison, et dans laquelle toutes les choses qui doivent être dites sont dites, par les anciens surtout, parce que je crois avoir pris la parole et avoir été vite recadré, parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même des leaders, et des grands leaders qui s'occupaient des affaires internes, et qui ont dit bon, ça suffit là, on ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait, alors qu'il y avait, on l'a vu par la suite, plus de qualité que ce qu'on montrait sur le terrain à ce moment-là.
Justement, tu parles des grands leaders, il y a rapidement eu dans la saison, en tout cas c'est ce qu'on a parlé, c'est ce qui a été écrit et réécrit, il y a eu une forme de putsch entre une génération brillante qui avait tout gagné, que ce soit Eric Champ, Eric Melville, voilà, une grande génération, et plein de petits jeunes qui arrivaient. Gérald Orsoni, toi, Yann Delegue, comment toi t'as vécu ce truc-là?
Alors, je crois pas qu'il... Non, il n'y a pas eu de putsch, il n'y a pas eu de choc générationnel, il y a eu... alors, en même temps que c'est notre génération qui est arrivée, qui avons pointé le bout du nez et le bout des crampons sur le terrain, il y a eu un changement d'air avec l'arrêt de Daniel Herrero, avec lesquels tous ces joueurs plus âgés et avaient vécu... Déjà 3 finales, un titre et des demi-finales et une ascension sportive incroyable et une aventure humaine exceptionnelle, de tout leur dire. Parce que du coup, moi, j'ai pas connu Daniel, hormis sur une bande de touche, ou au moins après le rugby, ou autour du rugby. Mais il n'y a pas eu de putsch générationnel. Par contre, il y a eu cette cassure entre les anciens, entre le discours de Daniel et l'arrivée de Jean-Claude qui a voulu marquer son territoire, mettre son empreinte, et qui a voulu s'imposer d'une certaine façon, en faisant des choix sportifs qui ne convenaient pas à tous les joueurs. Donc certains joueurs qui avaient arrêté le rugby, et qui n'étaient plus, nous le groupe c'était quand même un peu amoindri, il y avait un problème budgétaire au Rugby Club Toulonnais à ce moment-là, André Herrero est venu pour mettre de l'ordre. L'emprunt, c'était un ric-rac sur plein de choses. Une anecdote incroyable à ce sujet. Et Jean-Claude qui fait avec des jeunes qui sont prometteurs parce qu'on sortait d'une demi-finale Réchelle. Donc il y avait quand même une bonne formation au Rugby Club Toulonnais, due à Daniel Herrero, parce que les bons résultats font que générationnellement, quelques temps après, tu as des bons jeunes qui arrivent, comme la génération aujourd'hui de Carbonel a évolué grâce aux arrivées de Wilkinson, de tous ces grands joueurs. Donc on avait des statues un peu devant nous qui nous faisaient rêver, donc ça nous permettait d'évoluer favorablement. Et voilà, et donc Jean-Claude qui a été peut-être maladroit à ce moment-là, et donc début de saison était très moyen. Très moyen, et est arrivé ce milieu de saison où il a fallu se remettre en question et où finalement après tout s'est imbriqué un peu plus naturellement et tout le monde a retrouvé sa place.
Alors plus qu'un choc de génération où vous n'étiez pas d'accord sur les idées, c'était peut-être plus sur le jeu où il y avait un désaccord entre des anciens qui aimaient faire la guerre et des minots qui avaient envie de jouer. Enfin voilà, qu'est-ce qui me manquait à ce moment-là jusqu'au mois de mars ?
Jusqu'au mois de mars, il manquait de l'expérience parce que quand tout talent qu'on puisse avoir à 18 ans, 19 ans, qui pouvait nous être prêté, les choses vont beaucoup plus vite. Donc on pouvait être bon en junior, mais quand tu arrives à l'équipe première, là tout de suite, pour être bon, c'est encore plus difficile. Voilà, donc Eric Melville a été positionné en deuxième ligne, ça ne lui convenait pas. Donc tout ça a créé des petits ressentiments. Et puis ensuite, oui, nous, on avait des envies de jeu, mais il fallait s'adapter aux réalités du terrain. Aubin Hubert était en licence rouge, donc ouais, c'était Philippe Sauton qui a fait le début de saison avec Christophe Fessol. Et puis ouais, c'était compliqué sportivement pour trouver le 15 ou le groupe qui puisse évoluer correctement. Donc ça changeait régulièrement de composition. Et tout ça, c'est pas bon pour les résultats.
Toi, tu dis, il y avait des grands leaders quand on fait cette réunion, notamment en mars. On essaie de prendre la parole, mais c'est un peu compliqué parce que voilà, il y avait des grands leaders au-dessus de nous. Quel est ton rôle ? Quel est le rôle de cette génération ? Est-ce que vous vous impliquez ? Est-ce que vous donnez des conseils sur le jeu ? Vous posez des questions ? Comment vous faites ?
Ouais, les questions, on en a posé parce qu'on aimait le jeu. On aimait le rugby, donc même si nos aînés aimaient bien faire la guerre et ils aimaient bien qu'il y ait un rugby total, ils aimaient bien gagner et Toulon n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il avait jouer avec les 15 joueurs. Donc Toulon qui se recroqueville avec que du char d'assaut et que du jeu d'avant, ben, c'est le Toulon qui perd. On l'a vécu ensuite, contre Montferrand en quart de finale à Lyon, on a fait des mêlées toute la partie parce qu'on était sûr de les fissurer et ce qu'on faisait, mais l'arbitre ne nous a jamais accordé une cette pénalité. Et on n'a jamais été aussi bon que lorsqu'on a joué tous ensemble. Donc nous, on avait envie de jeu, on a toujours parlé, évoqué le jeu. Après, il y avait les anciens qui aimaient aussi garder un peu le ballon. Mais quand ça va mal, c'est sûr qu'on évite de l'envoyer un peu trop loin à l'aile parce que peut-être quelqu'un, tout le monde ne fait pas les mêmes efforts. Et ça s'est fait naturellement sur la fin de saison. Là.
Et c'est ce que vous avez trouvé du coup en mars, visiblement, après cette réunion ?
Ouais, après cette réunion, tout le monde s'est remis en cause, encore une fois, dans l'année. Tout le monde était opérationnel physiquement aussi, ce qui n'était pas le cas de toute l'année parce que des joueurs ont été blessés tout au long de la saison. Et ce qui fait que, et oui, on a trouvé la carburation et le préparateur physique Alex Desjardins a aussi trouvé les très bonnes méthodes pour nous mettre en forme optimale. Ce qui ne nous a pas empêché d'aller faire le barrage. Donc voilà. Mais avant le barrage, il y a eu des signes annonciateurs avec des matchs. Des physionomies de match plus intéressantes et des résultats qui laissaient espérer des meilleurs auspices.
Toi, tu as 18 ans cette année-là, c'était l'année de tes 18-19 ans cette
saison.
Ouais,
19 ans au mois de mai. Ouais.
Comment voilà, tu joues avec des mecs qui sont des légendes, qui ont déjà gagné des Brennus avec Toulon, tu as des mecs qui ont 30 ans, 35 ans. Toi, tu as 18-19, comment tu t'intègres dans ce groupe ? Est-ce que tu fais le con avec Yann qui est de ta génération, Yann Delegue ? Comment tu t'intègres ?
Oui, ce qui est le paradoxe, c'est qu'on a cette insouciance et je crois qu'on ne peut pas lever l'insouciance aux enfants, quoi, quels que soient les problèmes. Aujourd'hui, c'est la guerre, les enfants jouent quand même parce que c'est le propre de l'enfant. Donc, on était des jeunes, des adolescents, on va dire, des ados. Au lycée, donc on avait des problèmes de notre âge, et des copines, des copains, et oui, par contre, on avait peut-être pas des idoles, quelque part pour certains, parce que moi je crois pas avoir, à part Jérôme Bianchi qui était vraiment le joueur à qui je voulais ressembler, j'ai fait kiner comme lui, j'ai essayé de buter de la même façon que lui, et en essayant d'avoir la même réussite, mais voilà, il y a un certain mimétisme. Après, évidemment, Eric Champ et Melville, c'était des joueurs incroyables qu'on regardait pour le tournoi pour Eric. Et Eric Champ et Melville aussi ensuite l'a fait. Mais c'était peut-être pas des idoles, mais voilà, c'est des joueurs qu'on respectait et qu'on regardait avec des yeux et qu'on écoutait et avec lesquels on apprenait énormément. même s'il jouait pas à l'arrière, il y avait des un apprenait dans les attitudes.
Dans le travail,
dans le travail, dans l'investissement. Ouais, ça par contre, c'était des modèles aussi.
Et tu te rends compte à 18 ans, 19 ans, donc t'es le plus jeune de cette équipe, que tu vis quelque chose qui est un peu irrationnel, qui est pas la priorité d'un gamin de 18 ou 19 ans à Toulon qui est censé aller avec ses potes, voir des copines, penser à son bac. Tu te rends compte que tu vis un truc un peu irrationnel
ouais,
à ce moment-là?
Tu vis quelque chose, oui, parce qu'il y a des articles, ça on te flatte, la vie change un petit peu quand même autour de toi. Mais oui, c'est un peu irrationnel. Et puis en même temps, tu vois, il y a les soucis du lycée, soucis d'horreur pour arriver au contrôle des technos et ces bateaux. Mais voilà, et tu gères un peu du temps. Alors ouais, tu vois moins les copains, t'as pas les sorties du samedi soir et les bringues avec les copotes. Mais voilà, donc ça change. Et c'est tellement abandonnant que tu oublies tout ça. Il y a plus de positifs que de négatifs. Hein.
Toi, comment tu t'organises? T'as les cours, t'étais en bac,
c'était ton bac. Ouais.
Comment t'organises ça?
Tu t'organises, tu vas t'entraîner après le match, et mes parents un peu de disponibilité, t'es très content aussi, mon père qui avait été joueur de rugby, très content que j'intègre, et puis on est pas tout seul, quoi, donc on est plusieurs à aller s'entraîner, donc on y va en bus, tout simplement, ouais, le permis se passe au cours de l'année suivante, donc non, la première année, tu vas en bus, c'est avec ton sac à dos. Et...
Tu pensais vraiment à l'école à ce moment-là? Tu disais vraiment à la fin d'année, j'ai un bac, ça va être cool
Non, j'étais un peu en difficulté, donc tu te dis, ouais, si le rugby peut filer un coup de main, c'est beaucoup mieux. Mais oui, tu penses aux deux, t'es obligé. Puis j'ai des parents qui pensaient beaucoup plus que moi, donc ils me faisaient penser aussi. Et donc ouais, tu penses au rugby parce que finalement tu penses plus au rugby quand t'es à l'école, et bon, je pensais pas à l'école quand j'étais au rugby.
Donc ton papa est fier que tu joues à ce niveau-là, ta maman j'imagine aussi, mais il y a les cours. Est-ce que voilà, par rapport à l'école, comment tu gères ça? Est-ce qu'il te ferme chez toi? Est-ce qu'il te bloque?
Bloqué, alors pas pour aller s'entraîner ni pour aller jouer, mais pas pour en faire plus, quoi. Voilà,
pas pour aller faire le con le week-end.
Ben ouais, les troisième mi-temps, bah, après j'ai 18 ans aussi, donc même si t'es bien encadré de certains lieux, ils ont pas envie de te laisser trop sortir. Mais ça fait partie du truc, donc il y a un peu de sortie, mais pas énormément. Peut-être pas suffisamment.
C'est marrant parce que je sais pas si tu peux parler d'humilité, mais on a le sentiment que tu prends pas conscience de ce qui se passe nécessairement. T'es pas. Enfin, t'es joueur de une ORCT, mais tu vis le truc comme il arrive, quoi.
Ah ouais, tu le vis, ouais. Il n'y a pas de quoi non plus monter sur la planète, quoi. Même si peut-être d'autres personnes à ce moment-là ont pu imaginer ou pouvaient penser que j'avais le melon, ou parce que. Mais je crois pas avoir changé d'attitude du jour au lendemain. Et puis après, les gens peuvent penser que tu deviens hautain, tu deviens présomptueux ou autre chose, ce que j'ai entendu pour d'autres joueurs. Mais après, c'est plus de la timidité quand tu connais pas les gens. C'est pas parce que d'un coup, tu joues en première RCT que tu vas aller sur les bancs du lycée faire bip bip et que tout le monde te regarde. Donc non, je n'étais pas comme ça. Non, je crois pas avoir changé. Là.
Du coup, on en parlait en off justement, mais voilà, t'es un jeune joueur, tu démarres pas titulaire la saison parce que tu faut que tu te fasses un nom, tu démarres en pro en une plutôt à l'époque, à 18 ans et 3 mois. Et comment se fait toi le processus? Tu joues de plus en plus, à quel moment tu deviens titulaire dans cette équipe?
J'ai la chance, c'est que ouais, les arrières de l'année d'avant sont partis. Je suis en balance avec Jean-Louis Varin qui couvre aussi le poste d'ouvreur. Et du coup, je suis remplaçant au premier match, c'était à Béziers, ça se bagarrait un petit peu. Jean-Claude m'a demandé si j'étais prêt. Oui, bien sûr, je suis prêt. C'est impressionnant quand même. Mais et puis tout de suite arrive la première titularisation, puis une deuxième, une troisième, ça se passe bien, et puis tu fais une boulette, donc on t'a dit bon, quand même.
C'était quoi la boulette?
Contre le Racing. On avait gagné le Racing, mais j'avais sauté sur une chandelle, sauf que le ballon était retombé un mètre après, donc tu prends un essai. C'est cash, là, tu payes vite les erreurs. Hein. Donc c'est pas des grosses boulettes, mais voilà, et puis tu repars jouer un peu en junior aussi quand même, dans ton équipe qui a besoin aussi de toi et de tous les jeunes, parce qu'ils ont une belle saison en réchelle à faire. Donc tu fais 2-3 matchs et puis non, puis ça se passe naturellement, quoi. Et puis tu prends confiance, et puis le groupe était restreint, donc à ce moment-là.
Tu sens toi qu'à ce moment-là ton rugby est en train de grandir d'une part, mais d'autre part que t'es bien sur le terrain, que ce que tu tentes ça fonctionne, que t'as une forme d'insouciance, mais aussi que t'es dans le truc, quoi.
Oui, parce que la préparation physique, et tu t'entraînes un peu plus, un peu mieux, même si c'est pas ce qui est réalisé aujourd'hui, mais Ouais, il y a des choses qui fonctionnent un petit peu. Et puis on est pas loin, hein, même si bon, on va faire les barrages. Mais on prend pas 50 points le dimanche. Donc on est taille à taille avec les équipes. On arrive à gagner à Toulon difficilement. On perd un petit peu à l'extérieur difficilement aussi. Mais on n'est pas largué. Donc on se dit qu'on n'est pas très loin, de la vérité, au moins ce qui peut être une vérité sportive à ce moment-là.
C'est une saison particulière, on en parlait en début d'interview. Il y a ce match à Aurillac, contre Aurillac, pardon, où Toulon peut jouer, grosso modo, l'avenir du club se joue.
Oui, c'est ça, ouais. L'avenir du club se joue à ce moment-là.
À cet âge-là, tu as toujours 18 ans, tu n'as même pas encore 19 ans,
j'ai
je pense. Quel est le poids que tu as sur les épaules à ce moment-là? Est-ce que tu es des supporters du Stade depuis tes minots? Comment tu appréhendes ce truc où tu as l'avenir du club entre les mains?
Alors, on a tous l'avenir du club entre les mains. Non, c'est à ce moment-là, les visages sont vraiment, vraiment serrés. Même si après, l'insouciance revient peut-être plus facilement à travers les autres matchs et les préparations. Mais à ce moment-là, oui, on sent bien que le club joue sa survie. Et donc, on l'avait vécu toute l'année. Hein, on a des résultats qui sont en dents de scie, un peu des victoires, beaucoup plus de défaites. Mais avant ce match, il y a quand même donc cette réunion, tout le monde prend conscience. Il y a une victoire, on finit à fin de saison sur un match du championnat où ça se passe très très bien. Et il y a une victoire contre le Bègle Bordeaux, qui avait quand même éliminé l'année d'avant Toulon avec ces deux matchs particulièrement houleux, surtout le premier à Toulon. Et il y a ce quart de finale du Manoir où on bat Bègle Bordeaux. Ok, je n'ai pas pris part, j'étais blessé. Mais l'équipe quand même se dit à ce moment-là, parce qu'on leur avait promis une déculottée, parce que Beck était le champion sortant, et finalement, en se resserrant, on s'est dit, ah ben quand même, il y a quelque chose qui s'était créé dans l'équipe. Et quand même vient ce match, où sur un match, même si c'est Aurillac qui veut accéder à l'étage au-dessus, nous on peut tomber, donc tout le monde est vraiment tendu. Bon, malgré tout, on arrive à jouer notre rugby en étant un peu cadenassé quand même, mais malgré tout, il y a une différence de niveau et on arrive quand même à avoir un score assez conséquent et à se libérer, même si ça a été tout tendu tous les matchs. Ouais.
Toi, est-ce que tu as des souvenirs aussi précis de ce match ou tu l'as quand même pris avec un peu de légèreté en te disant bon, si
non,
je.
Pas de légèreté, mais à ce moment-là, on prend peut-être pas la même conscience des choses. Eric avait 30 ans déjà, il avait des titres, il était champion de France, il le bouclier, il a joué le grand chelem. Donc il a plus de maturité, il a plus de vécu, plus de recul pour prendre le pouls de chaque chose. Nous, on se rappelle de la tension, ouais. Je me rappelle d'un stade Montpellier à Sabaté qui était dégueulasse, avec un vestiaire tout petit. Donc, te dire à côté de qui j'étais assis, certainement à côté de Yann et Pompon, parce que c'est. Non, pas Yann, parce qu'il était en équipe de France à ce moment-là. Jean-Louis jouait à l'ouverture. Donc, on était pas loin des uns des autres, des trois quarts. Mais non, Eric, certainement, prenait plus le pouls de chaque chose à ce moment-là. Ce que j'ai vécu peut-être sur la fin. Aussi, où tu fais plus attention à d'autres détails quand t'es jeune. Mais bon, il y avait l'insouciance là, non, il n'y avait pas la place à l'insouciance, à tenter quelque chose. Ce jour-là, on n'était pas là pour tenter, se dire si ça marche, tant mieux. Là, il fallait gagner, il n'y avait qu'un seul objectif, c'était gagner. Donc, pour gagner, il faut quand même qu'il y ait pas un rubis total, mais qu'il y ait un rubis intéressant, parce que on ne pouvait pas gagner qu'en faisant des molles. Mais il y avait quand même cette notion, oui, on va les marquer, et là il fallait vraiment les marquer et on a réussi.
Justement, sur un match aussi décisif, donc celui d'Aurillac, quel est le rôle de Yann qui n'est pas là, mais de cette jeunesse qui est en train de fleurir et qui apporte un peu cette insouciance sur un match où on n'a pas le droit d'être insouciant? Quel est votre rôle à ce moment-là?
Non, là on est. Je crois que sur celui-là on est plus suiveur. Et je crois de mémoire, je me souviens qu'on a beaucoup rigolé avant tous les autres matchs. Mais je n'ai pas de mémoire qu'avant ce match-là, il y a eu des rires, des sourires, et qu'on ait pu relâcher la pression. Le match d'après, oui. On joue contre Nîmes, à Avignon. Et l'hôtel qui a été choisi par le club, et, quand on arrive, on n'est pas au courant, mais il y a un mariage. Donc, déjà, Jean-Claude était quand même très, très tatillon sur plein de choses, et alors, le mariage, ça l'insupporte. Et donc là, on est avant le repas du match, donc à 11h du matin, parce qu'on jouait à l'après-midi. Et il y a quand même Marc de Rougemont qui appelle Eric Maville, qui lui dit qui appelle Eric Chan, qui lui dit la mère à Toto a trois enfants, pim pam, et un autre qui répond poum. Et là, la table entière s'est mise à rigoler.
Donc là, t'es à 3h d'un match.
Ah, 3h d'un match de phase finale, mais pour nous, l'histoire, elle était faite, c'est-à-dire qu'on avait sauvé le club. On avait fait une saison pourrie. Qu'est-ce qui pouvait se passer de différent? On allait être éliminé en phase finale. On devait descendre, donc le club n'est pas descendu. On pouvait repartir la saison d'après. Donc là, c'est l'hilarité générale. Quoi. Les joueurs sous la table, Jean-Claude Donator qui intervient, vous allez repartir chez les juniors. Et tout le monde rigolait, impossible d'arrêter. Donc là, tu sens que ça y est, on a évacué le stress, on peut rigoler. C'est beaucoup plus simple. Et puis, ouais, et puis on commence à être pas sûr de notre force, mais on sent que les équipes, Nîmes, qui est une équipe qui a toujours souri à Toulon, donc pourquoi ça n'allait pas continuer? Donc tout de suite, là, tu peux être un peu plus jovial. Hein.
Du coup, vous êtes un peu plus relâché. Est-ce que c'est pas là que vous donnez la pleine mesure du potentiel que chaque jeune peut apporter à cette équipe?
Oui, évidemment que dès que tu es plus relâché, que tout s'imbrique bien, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Les courses sont plus faciles. Tu es un peu moins fatigué. Et puis physiquement, on est très très bien. L'équipe type est trouvée pratiquement. Il était revenu dans le groupe Yvan Rousse aussi, qui a apporté aussi encore un peu de maturité. Tout le monde est sur le pont. On a les troisièmes lignes, ils sont tous là. Ouais, l'équipe type s'est formée. Donc quelque part c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et on joue en rugby en plus qui convient à tout le monde. Il convient à tout le monde, il y a de l'alternance, il y a du physique, ça devant, on est costaud. Donc ça nous plaît, tout le monde est intéressé. Ouais.
Justement, on taira les noms, mais il y en a certains qui disaient nous on faisait la guerre et eux tout ce qu'ils avaient envie c'était de relancer depuis le parking.
Oui, mais nous on relançait depuis le parking, hein, et si on pouvait, mais de temps en temps ils nous rappelaient à l'ordre. Mais c'était notre façon de voir aussi le rugby. À Toulon à ce moment-là, on n'avait pas 25 ballons. La partie, donc il fallait exploiter tout ce qu'on pouvait exploiter, et quelque part cette volonté de le faire, même si ça marchait pas, et il a fallu que ça fonctionne contre Tarbes en quart de finale. Donc il a fallu une relance de 80 mètres, et c'est vrai qu'à 5 minutes de la fin, peut-être c'était pas écrit, et si t'as pas cette envie toute l'année de le faire et de tenter de temps en temps, tu peut-être que tu arrives pas au moment où ça doit être fait.
C'est peut-être d'avoir touché le fond aussi à un moment qui vous a permis de repartir, d'avoir plus rien à perdre.
Mais oui, mais c'est sûr qu'une fois que tu as sauvé le club, la saison elle est bouclée. Elle est bouclée, quelque part elle est bouclée. Il peut t'arriver ce qui va arriver. On en parlait encore samedi, on était en voiture avec Bruno, Motorose et Thierry et Yann Mandelin. T'as la sensation que ça se déroulait après plus facilement. Alors a posteriori c'est beaucoup plus facile à dire, mais c'est. Il n'y avait plus de stress. Non, il n'y avait plus de stress à rencontrer une équipe ou l'autre, savoir quelles étaient leurs forces.
Et vous commencez dans le vestiaire, vous dire attends, mais là on vient de sauver le club, où est-ce qu'on va s'arrêter maintenant? À quel moment tu le comprends, toi, que tu te dis attends, il y a peut-être quelque chose de vraiment beau à faire cette saison qui était censé être pourri?
Moi j'ai eu un rêve une nuit de jouer contre Banco. Mais quand tu regardes le tableau, tu te dis attends, t'es pas encore en finale.
C'est à quel moment de la saison ça?
Et on est dans les phases finales. Et tu regardes le tableau de Biarritz qui n'était pas une équipe qui était prévue pour aller en finale du championnat de France. Donc t'as un rêve quelque part. Mais après oui, collectivement, tu t'es dit qui y a là, on prend qui? Pourquoi pas quoi. C'est vrai que tu prends Nîmes, qui est une équipe qui a toujours souri à Toulon. Béziers, c'est une équipe qui n'a jamais éliminé Toulon en phase finale. Et tu les retrouves au Vélodrome. Et puis on a eu une petite piqûre de rappel en Dumanoir en demi-finale contre Agen, où on prend 25 points je crois. Malheureusement Eric se fait expulser, mais pour la solidarité de l'équipe, c'est-à-dire qu'il y a une altercation entre Benazi et Pascal Gel, et Eric sur la touche d'après il laisserait me passer, donc il se chope avec Benazi, et bagarre générale, malheureusement il prend le carton rouge, il est suspendu pour la fin de saison.
C'est ça aussi que vous aviez peut-être, ce côté famille, groupe, un peu diaspora, on se touchait pas les uns les autres.
Ça c'est Toulon, ouais, je crois que c'est le rugby d'avant, et c'est Toulon particulièrement, c'est-à-dire que le groupe qui est de phase finale devant, c'était celui qui avait aussi amené Daniel Herrero sur ses conquêtes, donc quelque part là il n'y avait pas de rien n'était possible, tu pouvais pas toucher à ça quoi. C'est-à-dire que là il y avait un groupe, parce que déjà c'était un Toulonnais, un part entière et aussi, aussi mûr que les avant quand il fallait, donc pour relancer la machine. Donc quelque part, oui, aucun joueur ne pouvait s'attaquer à des anciens ou même à nous les jeunes. Hein. Quelque part dans le discours, on sentait qu'on n'avait rien à craindre des adversaires. Parce qu'on était protégés et qu'il était toujours dit, attention les jeunes, ils ont pas les toucher. Donc sur les chandelles, j'avais personne s'est amusé à venir nous embêter ou à nous plaquer plus sèchement. Parce que le rugby permettait aussi à cette époque de marquer de ton empreinte les joueurs qui voulaient être un peu désagréables.
Je reviens sur le rêve dont tu parlais du match contre Serge Blanco. T'es, là, tu es en finale dans ta tête ou pas encore sur ce rêve? Et tu te réveilles quoi? Tu te réveilles en sueur? Tu te réveilles, tu demandes à tes parents?
Oh, ouais, c'est un songe. Je te dis, bon, c'est loin quoi. Et puis au fur et à mesure, tu te dis, ça se rapproche parce que tu les vois gagner aussi. Tu te dis, putain, comment ils font pour. Ils sont comme nous quoi. Ils n'ont pas fait une saison extraordinaire sans passer par les barrages. Mais eux, ils avaient un autre credo, c'était faire la fête à Blanco toutes les semaines. Donc, ouais, toutes les semaines, ils faisaient un jubilé à Serge Blanco. Toutes les semaines, ils faisaient le jubilé de Serge Blanco. Et ils étaient détendus par rapport à ça.
Et du coup, toi, t'as 18 ans, 19 ans bientôt. Tu commences à te dire, j'ai envie de croiser Serge Blanco au final. C'est un rêve, c'est accessible, c'est inaccessible. Est-ce que tu commences à l'avoir en tête?
Non, tout est inaccessible. Là, on est vraiment en match après match. On s'entraîne. On sent l'ambiance remonte parce que les supporters, une fois que ça commence à gagner, retrouvent le stade plus facilement. Il y a de plus en plus de monde qui nous accompagne dans les déplacements. Donc il y a de plus en plus de ferveur. Mais il y a cette montée en puissance quand même, et nous on l'a vécu depuis le départ. Donc 32e de finale, ça fait loin. Aujourd'hui, tu te dis, tu vas faire 6 matchs de phase finale pour arriver à Paris avec cette montée en puissance. Ouais, au fur et à mesure, on parle de plus en plus de toi, l'équipe, pas de moi personnellement, mais de l'équipe et Toulon qui impressionne au fur et à mesure de ces sorties, parce qu'on bat Nîmes, on bat Béziers assez nettement avec une mêlée qui détonne, avec au Vélodrome, ça c'est un souvenir extraordinaire, quand je jouais au stade Vélodrome. C'est un stade particulier, hein. Mayol est formidable, mais tu foires la pelouse du Vélodrome, là c'était un billard, c'était pour les footballeurs, c'était magnifique. Donc,
pour en arrière aussi.
Ouais, pour en arrière aussi, ouais, pour mettre des pénalités, pour taper les drops, on a fini ce jour-là. Hein.
Je vais rebondir sur ce truc là, tu me parles des coups de pied, t'as 18 ans, t'es le buteur numéro 1, on va dire, dans les 50 mètres du RCT. Comment à 18 ans on peut assumer cette responsabilité là?
Moi je venais du foot, donc j'étais pas celui au foot qui tirait les coups francs à la Platini. Hein. Plutôt les 6 mètres, donc j'ai un bon coup de pied. Mais tu t'entraînes et puis quand t'es joueur de rugby, avoir des responsabilités, quand t'es joueur sportif de haut niveau, avoir des responsabilités, c'est ce qui te plaît. Donc, et tu sens que avoir de plus en plus de responsabilités, c'est important, c'est un honneur, et ça veut dire que les gens croient en toi, et ça te donne de l'importance aussi dans l'équipe. Et au moment de faire une composition d'équipe, le buteur, quel qu'il soit, on le place, et des fois on le met à l'aile, même si c'est pas son poste, c'est arrivé en équipe de France de mettre des joueurs à dire non, mais il le faut, il faut un buteur. Donc on va le positionner, et après on fera l'équipe autour. C'est un droit à l'erreur aussi, hein, donc, mais oui, c'est une pression. Hein. Ah, c'est sûr qu'avant les matchs, t'as un peu l'estomac qui se tord de temps en temps, hein, puis, même souvent. Mais ouais, c'est ça, c'est. Je crois que le but, c'est pour tous les buteurs que tu vas rencontrer, c'est en soi. Quoi. Tu l'as et tu as envie de buter, et quand on te prend le ballon, t'es pas content. Donc ça, c'est. Alors on le partageait facilement, parce que Pascal Gel était celui qui, en fin de saison, s'est mis à buter de loin, voire de très loin, et ça marchait bien. Donc il te lève une pression, et c'est Jean-Claude peut-être qui me l'avait levé. Dans l'année, puisqu'on partageait le but avec Yann à un certain moment, et puis tu t'amusais pas à taper des coups de pied qui n'étaient pas réalisables. Donc on restait dans notre champ de possible, là où ça doit rentrer, et on essayait d'être le plus performant.
Bon, puis finalement les choses s'imbriquent, vous passez un tour, deux tours, trois tours, et un jour tu arrives en finale.
Et après,
c'est Serge Blanco.
Ouais, c'est Serge Blanco, et tu te dis, putain, j'ai fait ce rêve là, j'ai pensé à ça, et c'est incroyable. Mais c'est ouais, là c'est angoissant, mais t'as 15 jours hein, pour le préparer le match, donc t'as le temps de réviser un peu le bac, t'as le temps de beaucoup t'entraîner.
Le bac, tu pensais vraiment à ce moment-là?
Ah non, tu penses pas, mais alors si, tu penses, parce qu'on fait des articles, les jeunes qui vont passer le bac, passent le bac, ils vont jouer la finale, tout se mélange. Hein. Mais tu penses qu'il était focalisé sur ce match, quoi.
Et sportivement, avant même de parler de la finale, comment toi tu le prépares? Tu vas jouer face à Blanco, qui représente ce qu'il représente pour le rugby français. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il représente pour toi, Serge Blanco, à cette époque?
Ah, Serge Blanco, c'était le meilleur arrière, ouais, du monde. Donc, Alors moi, au départ, je ne suis pas un fan de rugby dans l'absolu, donc je regarde un peu le tournoi, mes parents. Mais bon, malgré tout, Serge Blanco, il est incontournable dans le rugby mondial. Donc évidemment que c'est une personnalité incroyable. Mais je crois que j'y pense pas, on m'y fait pas penser. Et quelque part, c'est peut-être une difficulté. C'est-à-dire que le jour arrive la finale, je dois lui serrer la main. J'apprends dans le bus qui nous amène au stade, là, où on regarde les CRS qui s'amusent à ouvrir la route devant. Ça paraît incroyable. André Héroux te dit, bah, tu vas filer un bonsaï à Serge Blanco parce que c'est la fin de carrière, on va lui faire un cadeau. Ah bon, c'est moi, merci. C'est difficile de l'appréhender. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, les jeunes joueurs ont beaucoup plus de recul par rapport aux événements que ce qu'on pouvait avoir, alors que là, on vivait l'instant présent. Donc, la poignée de main avec Serge Blanco, je la voulais la plus courte possible parce que je sentais qu'à ce moment-là, il pouvait... Il aurait essayé de m'éteindre
psychologiquement.
En me regardant. Et c'était, ça aurait été de bonne guerre qu'il le fasse. Hein. Mais oui, quelque part, c'était délicat d'aller l'affronter comme ça avant le match et d'être son égal, quoi, et de dire, attends, on est 2-15, on va jouer face à face, je t'offre un bouquet et d'avoir du recul pour vivre ce moment-là.
Justement, je reviens sur cette histoire du bonsaï. Comment on se retrouve à envoyer le minot de l'équipe donné à un mec qui est en train de jouer son dernier match? Est-ce que c'est une guerre psychologique aussi?
Ouais, je crois que c'est le symbole qu'avait voulu André Herrero. J'étais le petit jeune arrière, lui c'était le grand arrière avec la carrière incroyable qui fêtait son jubilé, quoi, ce jour-là, vraiment. toutes les phases finales c'était son jubilé, mais là ils avaient réussi à l'amener au Parc des Princes pour finir sa carrière, et donc il fallait lui faire un petit cadeau. Et voilà, je crois que le symbole aurait été soit que ce soit Eric, avec qui il partageait des affinités, son une ami. Carrière en équipe de France, et qui était son ami, de lui offrir. Mais bon, ça, le protocole, je ne sais pas s'il aurait été accepté. Donc c'est tombé sur le jeune arrière et le vieux.
Et la semaine qui précède, est-ce qu'à l'entraînement, alors tu dis j'essaie de ne pas y penser, mais est-ce que tu demandes quand même qu'on te mette 4000 chandelles? Est-ce que tu demandes qu'on te fasse des contrats avec les plus
rapides? Ça, c'est entre nous, on travaillait la réception de chandelles, on travaillait les coups de pied, on travaillait les renvois. Il y a ce travail personnel, il n'y avait pas besoin de trop nous pousser. Je me rappelle si quand même qu'on a fait un entraînement sous la pluie avec Jean-Louis Drouin. Hein. Je ne sais pas pourquoi il s'était mis à pleuvoir quelques temps avant, et il dit ça peut servir. Et c'est vrai que le match de Castres, on avait joué sous la pluie et ça avait servi. Et j'ai une très belle photo avec Jean-Louis, on est dans les bras l'un de l'autre à la fin du match, parce que je savais que son travail m'avait permis d'être assez performant ce jour-là. Et quelque part, il nous poussait aussi. Donc lui était plus ancien, il n'avait pas eu la chance de tout jouer. Mais il y avait cette complicité quelque part. Donc c'était important. Et travailler le but, les renvois, le coup de pied, nous, ça nous plaisait. Tant qu'on avait un ballon dans les mains, je crois qu'on était contents. Donc je pense que le gardien du stade avait plus souvent éteint les lumières avant qu'on finisse de travailler que le contraire.
Tu dors bien la veille de la finale? La semaine qui précède la finale, est-ce que tu dors bien? Ou est-ce que tu travailles en pleine nuit? Est-ce que ton rêve y réapparaît? Ça devient un cauchemar?
Non, c'est plus ni rêve ni cauchemar. Ouais, tu dors, tu penses. Ouais, je crois qu'on s'est entraîné suffisamment comme il faut pour bien dormir. On n'était pas spécialement stressé. Hein. Et toute cette évolution a fait qu'on a sauvé le club. On passe un tour, deux tours, trois tours et arrive en finale. Et puis, ouais, là par contre, l'insouciance, c'est l'été. Hein. C'est avant tous les matchs, il y avait de la rigolade.
Même la finale?
Ah ouais, la finale, il y a les images de la voisine où on joue aux cartes, et allez, on kiffe tout court après autour de la table, on joue aux boules le matin du match. Il fallait tuer un peu le temps aussi, donc tu sais, on sait bien que de rester enfermé chacun dans sa chambre ou à parler que du match avant, mais tu vas faire le match avant, donc tu vas laisser de l'influx. Donc là, finalement, on avait l'esprit qui était ailleurs et on était focus sur le match parce que c'est la force que nous ont transmis aussi les anciens, c'est-à-dire que le match, ça se passe pas, c'est que pendant le match. Il faut y penser avant. Mais tu y penses quand c'est le moment, tu as des flashs, tu sais que tu as des actions auxquelles tu dois prendre part, et le rôle que tu dois avoir pendant une partie. Après, ça peut jouer. Mais c'est vrai que du coup, notre jeunesse, on était quand même assez nombreux à être assez jeunes. Et puis il y avait d'autres qui étaient un peu moins jeunes et qui avaient envie de rigoler aussi, qui n'étaient pas fermés. Donc ça se passait assez bien. Ouais.
Quel est le mot des anciens, des mecs qui ont tout gagné avant toi, qu'est-ce qu'ils viennent te dire? Quels sont leurs mots pour te rassurer, pour te dire de t'éclater? Qu'est-ce qu'ils t'apportent à ce moment-là?
Je crois qu'on se parlait un petit peu. Je crois que la finale, c'est beaucoup dans les regards. Et puis après, c'était la confiance. Je crois qu'on ne peut pas souhaiter autre chose à un joueur. C'est ce qu'on avait. Je pense de plus, c'est vraiment une véritable confiance les uns dans les autres. Et dans le collectif, dans notre force, on avait vécu quand même à travers les matchs de phase finale, certainement la plus belle remontée là, face à Tarbes avec ce match qui part en prolongation. Donc il y avait véritablement une confiance incroyable dans ce qu'on pouvait réaliser et dans le fait que tout pouvait basculer jusqu'à la fin. Quoi. Donc quelle que soit la façon dont on tourne le match, contre Biarritz on prend un essai, là, sur une relance de Serge Blanco, il passe devant. Malgré tout, ça ne nous éteint pas, on continue à faire ce qu'on sait faire, un coup de pied par-dessus, des 89, des sautés, on envoie des ballons. Alors c'est pas le rugby de maintenant, c'est décousu parfois, mais on envoie un nombre de ballons aux ailes, les ailiers touchent des ballons, c'est pas cadenassé, quoi. Donc c'est très ouvert, et on se régalait.
Justement, est-ce que tu te souviens, toi, de cette finale? Qu'est-ce que tu gardes des souvenirs précis, ou t'as oublié tous les matchs, t'en as joué trop? Est-ce que celui-ci
non,
t'a...
Non, alors je crois qu'on se rappelle toujours que des bonnes choses. Mais oui, la finale, je me rappelle. Après, il y a eu beaucoup d'images pour nous qui ont été enregistrées, qu'on a vues ensuite à travers tous les journaux, parce que c'est une finale, donc ça nous a créé des flashs et ça a permis de bien se les remémorer. Mais oui, l'ambiance du Parc des Princes, le bruit qu'on peut entendre là, quand on arrive sur la pelouse, là, c'est une véritable ruche, donc ça résonne autour, là, on entend tout le public, on en prend conscience. De l'intensité du truc, le vestiaire, le grand vestiaire pour pouvoir s'entraîner à côté, pour s'échauffer, la qualité de la pelouse, la poignée de main avec Mitterrand, tout ce moment, tout le protocole qu'il y a avec la police.
Tu profites là où tu stresses? Là tu te dis, c'est magnifique ce que je vis, ou t'es waouh, là
ouais,
il est dans 80 minutes.
T'as envie que ça débute quand même, t'as envie d'aller sur le terrain, mais c'est... T'as le temps de faire monter tout ça. Et là, tu sautilles en permanence. T'as envie de rentrer sur le terrain, t'as envie que le match commence et que ça démarre. Et puis après, oui, le match, il y a plein de la première pénalité. Je me rappelle, le premier, les chandelles, et certaines actions, et ce que tu fais bien, ce que tu fais pas bien. Oui, je m'en rappelle parfaitement.
Bon, puis là, il y a aussi ce truc où il y a la France entière du rugby. Qui veut que Biarritz gagne. D'ailleurs, on a lu ici et là que même si vous n'aviez pas joué cette finale, vous auriez voulu que Biarritz gagne ce jour-là. Mais là, t'es tout seul, t'es de l'autre côté.
Je crois que oui, c'est sûr que pour Blanco, tout le monde voulait une sortie avec un bonus pour Serge Blanco. Et puis, il l'a dit, hein, il aurait bien échangé quelques sélections ou plusieurs sélections pour avoir le bouclier. Mais alors, on savait bien que c'était les Basques, et qu'ils étaient très festifs et quelque part, ça allait bien, ils l'ont perdu, c'était pas très grave. Ils avaient fait ils avaient mis Serge au parc, il a mis une pénalité de 60 mètres, ce qui est certainement encore le record au Parc des Princes. Donc c'est incroyable, ce joueur.
Il était buteur parfois, dans l'occurrence, là, il fait cette pénalité de 60 mètres qui vole dans le ciel du Parc des Princes. Tu regardais avec des grands yeux ce mec pendant le match, ou vraiment pendant le match, c'était ton adversaire, toutes les légendes qu'il soit, c'était ton adversaire, ton vis-à-vis?
Alors, quand t'es loin du joueur, tu le vois évoluer, tu focalises pas sur lui, quoi. Tu as ton attention. Mais bon, évidemment, deux, trois fois, il a le ballon, une fois, il récupère ce ballon sur un coup de pied, Job s'assomme un peu dessus parce qu'il était quand même assez costaud. Il fait une relance de 30 mètres, et deux passes et il marque un essai. Et je me rappelle très très bien, par contre, une très belle 89 qu'on joue avec Yann Malville, Aubin Hubert. Il me met dans un intervalle. Et face à Serge Blanco, je me rappelle bien avoir eu ce temps de réflexion qu'il ne faut pas avoir, ou d'avoir réfléchi et de dire non, je peux pas lui faire. Je peux pas lui faire un coup de pied par-dessus. Je n'ai pas osé.
Mais tu peux pas lui faire parce que c'est Serge Blanco ou parce qu'il va te prendre?
Ouais, je crois. Ouais. Il me semble bien que dans ma tête, quelque part, c'était pas possible de faire à Serge Blanco un coup de pied par-dessus et aller marquer un essai. Quoi. De tenter, ça me paraissait pas possible. Donc c'est vrai que sur cette action que j'aurais tenté un carrage débordement, parce que j'avais eu la même action en phase finale l'année d'avant en junior, et je l'avais fait, ou un coup de pied par-dessus parce que je le faisais. Et je me suis arrêté, j'ai attendu le soutien, et bon, il m'a plaqué, il m'a soulevé comme un enfant, avec mes 70 kilos à l'époque. Donc ouais, c'est... Mais ça, je m'en rappelle très bien, ouais. Bon. Mais si ça se repasse, si t'as pas la chance de revivre deux fois des tête à tête comme ça, des face à face sur le terrain. Mais quelque part, ouais, c'est le seul peut-être regret de ne pas avoir tenté un truc à ce moment-là. Mais bon, on a gagné le match. Donc,
Justement, le match se construit. On comprend que tout le monde va gagner. Il marque un essai en fin de match, Biarritz. Mais voilà, c'est fait. Coup de filet final. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Les premières images qu'on revoit, tu fonces sur Yann.
On est côte à côte parce que je viens de taper une pénalité, je la manque et j'étais vite parti me replacer et l'arbitre siffle. Donc la première chose qu'on fait, c'est bon, on est dans les bras l'un de l'autre. Et puis on profite, là on regarde tout autour de nous, c'est extraordinaire. Il y a les caméras partout sur le terrain, ils viennent commencer à tour. Je me souviens qu'il y a un supporter qui avait dû sauter les barrières, qui était là, qui avait voulu venir nous remercier, nous congratuler, moi toute l'équipe, les stadiers s'étaient mis autour, donc on avait essayé de le récupérer pour le laisser un peu libre. Et tout de suite, on se rend compte que le bouclier est déjà en train d'être soulevé par les collègues, parce qu'eux, ils avaient l'habitude, donc sur la photo du bouclier, il y a tous les vieux qui avaient déjà gagné une fois, et ils sont autour du bouclier. Donc nous, on était encore sur la pelouse quand ils ont soulevé le bouclier.
Donc tous les minots, c'était le choc de génération, là, il fallait vite monter.
Ah, là, il fallait vite monter les marches, là, tu les prends 4 à 4, et t'y vas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un protocole, et tout le monde s'attend, il y a plein de choses, et s'il n'y a pas les 30 ou les 40 joueurs de la saison autour du bouclier, ils ne soulèvent pas le bouclier. Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, ça se faisait, c'était un peu plus naturel. Les joueurs sont montés au fur et à mesure. Le premier en a mis un deuxième, et tac, 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 sont montés. Et si les boucliers étaient. Et nous, on les a regardés soulever le bouclier.
Donc, tu n'as pas ta photo avec le bouclier, avec toute l'équipe?
Après, à ce moment-là, on n'est pas sur la photo. Non, non, il y a Eric qui le soulève, il y a Aubin, il y a Thierry autour. Il y a Bruno, Motorose, j'ai encore vu les photos. Mais avec Yann, on est sur le terrain. Donc on y va et on passe dans les derniers pratiquement à soulever le bouclier qui était assez lourd.
Alors juste pour finir sur Serge Blanco, après on passera à la célébration du titre, mais tu es le jeune minot de 19 ans qui a la priorité de son bac, machin, tu joues à Toulon et tu viens de savonner la planche de la plus grande légende peut-être du rugby français. Est-ce que tu l'as en tête? Est-ce que tu as un mot pour lui ou est-ce que tu ne vis pas du tout comme ça à ce moment-là?
On est content. D'abord, on pense qu'à soi. Et puis, après, j'essaye de le croiser parce que j'aurais voulu, même si je voulais garder mon maillot, j'aurais voulu échanger mon maillot avec Serge Blanco. C'est vrai que mon maillot de la finale, il est particulier. C'est peut-être le seul maillot ou le seul maillot qui me reste. Mais oui, ça aurait été bien d'avoir celui de Serge Blanco. Donc j'essaye. Et puis, il avait déjà donné à quelqu'un. Et puis la grande classe qu'il avait, quoi. Il est venu nous féliciter, nous remercier, il avait vécu une finale exceptionnelle aussi, à titre personnel, puis, il a mis son coup de pied incroyable, que seul lui pouvait sortir à ce moment-là de la partie. Donc quelque part il avait la défaite pas joyeuse, mais il avait cette classe de dire bon, ils ont perdu contre meilleur qu'eux, ce jour-là, voilà, on a été meilleur. Donc il avait avec une certaine humilité. Reconnu sa défaite et il était content du parcours qu'il avait fait parce que bon ben, du coup il a une carrière exceptionnelle dans son club à lui de toujours, donc ouais, c'était bien passé.
Il n'est pas parti mauvais joueur.
Non, il n'est pas parti mauvais joueur, non, certainement pas.
Et là vous redescendez par hier, je crois.
Ouais, on prend l'avion, on fait une grosse soirée à Paris. Et on reprend l'avion et de l'avion ils nous disent bon, on prend un peu le bus et on part, et puis après l'arrivée en bateau à Toulon par la mer. Là, c'est extraordinaire parce que l'avenue de la République là était pleine de monde, quoi. C'est incroyable. Il y avait déjà des bateaux qui nous suivaient, ils avaient su qu'on allait arriver en bateau, il y avait déjà des petits bateaux qui étaient autour de nous en arrivant dans la rade, et puis après c'était parti pour 24 heures. Incroyable.
Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant 24 heures? Tu te rappelles de tout pendant 24 heures?
On se rappelle de tout, on se rappelle les réceptions, la mairie, la montée à la mairie, tout le public qu'il y a autour, on se rappelle. Ensuite on repart au stade pour prendre des enfants de l'école de rugby sur les épaules, on fait un tour d'honneur avec le bouclier. Et puis après certainement une grosse fête. C'est ce soir-là qu'on a atterri dans le port. On s'est tous jetés dans le port après l'apéro.
C'est le meilleur souvenir de ta carrière, peut-être pas de ta vie, mais de ta carrière?
Carrière sportive, le bouclier, oui. Après, j'ai eu deux autres boucliers en pro des deux, et puis on est plus âgé, donc on les vit différemment. Voilà ce qu'a vécu Eric après. Il y a une certaine différence dans la façon d'approcher les choses. Là, c'est vrai que pour nous, Ça paraissait facile, on s'est dit, d'après, on y retourne. Hein. Et puis pourquoi pas, on va y retourner tous les ans, parce que gagner, quand tu gagnes, ça paraît simple. Puis après, la lumière nous a montré que c'était beaucoup plus compliqué et qu'on n'a pas réussi à retourner au parc.
Est-ce que les anciens te disent profite ? T'as l'impression que c'est normal, puisque t'as 18 ans, que sur ta première année, tu fais kin direct, mais profite parce que c'est pas aussi simple que ça.
Ah, ils te disent profite parce que la difficulté pour y arriver, quoi. Et puis on se rend compte après, quoi. Quand t'arrêtes à demi une fois, tu t'arrêtes en demi deux fois. Tu arrêtes en quart et puis après c'est commencé à avoir le pain blanc a été mangé et tu commences à avoir le pain noir, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Et puis après tu joues moins avec tes copains parce que le rugby commence à changer et que tout le monde a commencé à partir et puis tu pars toi aussi donc tu vis le rugby différemment. Ouais.
Tu prends conscience de quoi ? Donc pas au bon moment tu reviens sur le port, mais sur cette période, de quoi tu prends conscience à 18 ans ? Est-ce que tu as le temps de théoriser un peu ce qui est en train de t'arriver ?
Non, t'as pas le temps. T'as pas le temps et puis tant mieux quoi. Il faut laisser un peu d'insouciance encore. L'escalade qu'on avait pour jouer, tu l'as toujours après les matchs. Après évidemment, le regard change, quoi. Mais tu sens autour de toi. Quoi. Il y a tellement d'articles dans les journaux, tellement de réceptions où tu es reçu à l'UPV. Là tu te dis, t'as 18 ans, c'est que des chefs d'entreprise, des mecs. Mais tu te rends compte que le sport, et on le voit depuis. Avant, je ne pouvais pas le voir, mais on le voit depuis 30 ans, où des hommes d'affaires qui ont des fortunes immenses, qui ont réussi dans les affaires, la seule chose qui les fait rêver, c'est de récupérer un club et d'être champion de France, et ils apportent tous les ingrédients qu'ils peuvent apporter de leur entreprise avec laquelle ils ont réussi. Et puis il n'y a qu'un qui gagne à la fin. Même s'ils sont nombreux sur la ligne de départ, où ils sont tous aussi riches les uns que les autres, ou presque, il n'y a qu'un qui gagne. Donc, ouais, non, c'est. Je crois qu'à 19 ans, t'as pas envie de théoriser et de te la péter. Tu profites des.
Bon, donc là, c'est parti pour deux semaines de brinque, sauf que nous, on nous dit qu'il manque un mec.
Il y a le bac. Donc là, il y a les réceptions officielles à laquelle tu dois participer, où le club te dit qu'il faut être là. Et puis, il y a les parents qui soutiennent le mordicus, qu'il faut passer le bac. Oui, j'ai envie de le passer, mais. C'est vrai que là, j'avais bien compris que j'avais pris du retard sur les révisions et sur le programme de l'année. Donc malgré tout, j'essaye de bachoter pas mal avant, mais sans faire aussi des brinques, parce que si tu fais la brinque jusqu'à 6h du matin, c'est compliqué pour réviser sereinement dans la journée.
Mais le bac, on s'en fout cette année-là. Il y a d'autres choses qui se sont passées.
Oui, moi, je me disais bien que, quitte à le manquer, autant faire les brinques, ou quitte à le passer, autant faire les brinques aussi, et ça aurait peut-être pu m'apporter un peu plus de joie. À ce moment-là, j'ai pas participé à tout. Et en plus, on a manqué la tournée de fin d'année, donc c'est ça le plus gros regret aussi. Hein.
La tournée de fin avec l'équipe.
Avec l'équipe, ouais. Donc, ils étaient partis aux États-Unis, Cuba et Canada. Donc, il y avait 15 jours de voyage. C'était un peu sur la suite de ce qu'avait instauré Daniel Herrero avec son groupe pendant des années. Ouais.
Sur le coup, t'en veux à tes parents de te dire non, révise, c'est plus important.
Bien sûr. Oui, parce qu'il arrive les résultats du bac et. On était quand même nombreux à avoir joué dans l'année, là, Igor Jouzon, Yann Doucet, Yann et Bélègue évidemment. Et on va tous ensemble voir les résultats. C'est le seul qui est au rattrapage. Et tu t'es dit merde.
T'étais le seul au rattrapage ?
Non, lui, Yann, c'était Yann. Le seul au rattrapage.
Tous les deux avaient loupé.
Ouais, j'étais même pas au rattrapage. Tout le monde avait manqué de manière sèche et lui était au rattrapage. Alors il savait bien que. En faisant une terminale, je ne sais plus, B à l'époque, il a eu pas mal d'oral et à l'oral, les gens lui avaient beaucoup parlé de rugby.
Le petit Delegue.
Ouais, le petit Delegue, là, il avait déjà mis des points de côté là, pour dans les oraux. Donc ça lui avait permis d'arriver à l'oral et à l'oral aussi, il avait été reconnu. Il avait fait quand même la une du journal avec nos livres d'école juste avant le bac. Donc ouais, finalement. Finalement, c'est lui qui s'en est le mieux sorti. Ouais.
Cette année-là, tu es champion de France avec le RCT en une, pas en top 14, en première division, mais tu rates ton bac.
Et je rate le bac, ouais. Je rate
et tes parents, ils te disent quoi
Ils sont pas contents, ouais. Ils sont vraiment pas contents. C'est un doux euphémisme. Et je vais chercher mon dossier scolaire, là, c'était au lycée Bonaparte. On rate le bac et je vais récupérer mon dossier. Et je vois la dame catastrophée quand je dis mon nom. Elle me dit Monsieur Tesser. Monsieur Tesser, à ce moment-là, j'étais devenu quelqu'un à travers le rubis. Et elle me dit on vous a reconnu trop tard, on avait déjà mis le tampon recalé. Elle me dit vous repasserez l'année prochaine. Merci, c'est gentil. Ça m'a fait plaisir d'avoir une chance d'aller à l'oral, parce que c'est vrai qu'à l'oral, on se disait que...
Normalement...
Ouais, quelque part, il y avait cette euphorie. Ça aurait même fait dans le journal qu'on avait au moins l'oral. Et donc, pour peu que le professeur soit un peu enclin à aimer le rugby...
Il apprécie le rugby, ouais.
Mais bon, dans la construction, ça n'a pas été une mauvaise chose. Et l'année d'après, la même personne m'a dit, vous avez vu cette année, vous l'avez eu, c'est très bien.
Ah, mais j'ai bossé cette année, oui.
Ah ouais, j'ai un peu mieux bossé, ouais. J'avais vu un an de plus, j'avais vu les cours un peu plus, j'avais peut-être mieux bachoté aussi, parce que le club m'avait permis de prendre des profs particuliers un peu pour récupérer un peu ce travail que je faisais peut-être pas tout au long de l'année, ce qui m'avait permis d'avoir le bac correctement.
Et la page 92 se ferme, 91-92 se ferme de la plus belle des manières. Bon, même si tu manques le bac, ça se ferme quand
ouais,
même.
Ouais, la plus belle des manières. Et puis voilà, on fait partie d'un groupe et on s'en rend compte aujourd'hui. Voilà, ça va faire 30 ans. On s'est revu samedi avec quelques anciens. On va aller préparer les 30 ans du titre qu'on va fêter dans le Haut-Var pendant le week-end. Donc ça crée des liens indéfectibles à vie. Ouais. C'est vrai que le titre, au-delà de l'aventure rugbystique, mais le titre crée quelque chose véritablement.
Merci Patrice d'avoir ouvert le livre à souvenirs.
Ah, merci à vous.
Et puis on se donne rendez-vous dans 10 ans.
Ouais, dans 10 ans, ça va faire mieux.
Merci.
J'espère qu'on se rappellera encore de plein de choses.
Merci Patrice.
Merci.
Rugby Club Toulonnais, 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable avec... Patrice Tesser, le minot qui regarde Serge Blanco dans les yeux.
Cette victoire à laquelle personne ne croyait, celle des genoux de l'Université de Besagne.
Un épisode chaque vendredi pendant 10 semaines.
J'imagine que ça doit être du délire sous la rade.
Un podcast de la rédaction des sports de Varmatan, Fabrice Michelier, Pierrick Illicrufinati, Olivier Buisson avec Sonia Bonin.